Je vous invite à suivre à présent l'émission Dialogue entre Congolais avec Alain Hirung à la présentation.
Bonsoir. Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni ce mercredi pour évoquer l'embargo sur les armes à destination de la RDC. Quel est l'état des lieux de l'embargo sur les armes en RDC et quel est l'impact de cet embargo sur la situation sécuritaire à l'est du pays? Nos invités sont Aubin Minako, député national de la majorité présidentielle et vice-président du groupe parlementaire PPRD à l'Assemblée nationale, Arthur Keppel, analyste à l'ONG International Crisis Group ICG, Georges Bergeson, chargé de recherche à l'ONG GRIP, groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité. Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni ce mercredi à huis clos pour évoquer l'embargo sur les armes à destination de la République démocratique du Congo. Les diplomates disposaient du dernier rapport du groupe d'experts de l'ONU chargé de surveiller cet embargo. Dans ce rapport, qui est principalement consacré au nord et au sud Kivu, les enquêteurs des Nations Unies constatent que les opérations militaires contre les FDLR n'ont pas permis de démanteler cette rébellion. Bien au contraire, pour se venger, les rebelles ont multiplié ces derniers mois les crimes contre les populations de l'Est congolais. Concernant le rôle des leaders en exil des FDLR récemment arrêtés, le panel démontre qu'Ignace Mouana Chaka et Straton Moussoni sont impliqués dans des transferts d'armes et le blanchiment d'argent issus des ventes illégales de minerais. Comme quelques médias du monde, Radio Okapi a pu se procurer une copie de ce rapport, en voici quelques éléments avec Samuel Kachak.
Selon ce rapport, les rebelles Hutus rwandais ont bâti un réseau de financement et de soutien international qui fait échec à toute tentative de neutralisation. Dans ce rapport détaillé transmis début novembre au Conseil de sécurité des Nations Unies, les experts affirment que ces rebelles des FDLR ont notamment reçu le soutien des membres d'organisations caritatives étrangères et parviennent à exporter des minerais en passant par des intermédiaires. Le groupe d'experts cite des compagnies britanniques, malaisiennes ou thaïlandaises qui achèteraient des pierres issues des mines contrôlées par des rebelles. Les experts affirment que les opérations militaires menées contre les FDLR ont échoué à démanteler les structures politiques et militaires de l'organisation. Selon ces experts, les FDLR continuent à recruter et se réinstallent dans de nombreuses zones d'où ils avaient été chassés après les offensives en 2009. Les FDLR ont depuis fait jouer leur réseau de soutien régionaux et internationaux pour se procurer des armes et parvenir à exporter des minerais jusqu'en Europe ou dans les Émirats selon le rapport. Enfin, ce groupe d'experts déplore le manque de coopération des pays occidentaux où sont installés des cadres des FDLR en liaison régulière avec les combattants en RDC.
Merci Samuel Kachak. Aubin Minako, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes député national de la majorité présidentielle et vice-président du groupe parlementaire PPRD à l'Assemblée nationale. Comment avez-vous accueilli l'organisation de cette réunion du Conseil de sécurité sur l'embargo sur les armes à destination de la RDC?
Évidemment, j'ai accueilli cette nouvelle avec satisfaction, dans la mesure où, depuis 1994, suite au génocide rwandais, jusqu'à ce jour, la République démocratique du Congo a été victime, bien évidemment, des causes endogènes, mais aussi et essentiellement des motifs exogènes, notamment l'action de la communauté internationale qui avait poussé les gouvernements du Rwanda d'alors d'héberger plus d'un million de ressortissants rwandais. Et suite à cette affaire, la République démocratique du Congo a connu plusieurs guerres qui ont dévasté non seulement ses populations, mais aussi ses structures, sa faune, ses richesses, etc. La République démocratique du Congo, en tant qu'État membre du système onusien, État souverain, devait résister face à toutes ces pressions, notamment face à ces agressions extérieures, mais pour résister face à une agression extérieure, causée notamment à la suite d'une action accentué par l'implication des Nations Unies, il fallait que l'armée congolaise soit à point, dispose des armes efficaces. Mais l'armée congolaise, l'armée d'un État souverain, n'a pu disposer de ses armes de haute technologie, notamment parce que les Nations Unies, la communauté internationale, avaient placé le Congo sous embargo. Il est vrai que cet embargo date notamment depuis 1993, dans un autre contexte, l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique, déjà en 1993, avaient imaginé et même sanctionné le Zaïre de l'époque. Le contexte était tout à fait différent.
Robert Minako,
aujourd'hui, oui.
Permettez-moi de vous arrêter à ce niveau pour ce premier tour de table. Je note que vous avez reçu avec satisfaction cette réunion. Le temps de passer la parole à Arthur Kepel. Vous êtes avec nous encore dans cette émission. Arthur Kepel, bonsoir. Arthur Kepel, vous êtes en ligne? Voilà, nous allons, la réalisation va retrouver Arthur Kepel. Georges Bergezan, bonsoir.
Oui, je suis bien là, moi.
Voilà, vous êtes chargé de recherche à l'ONG GRIP, groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité. Je vous pose la même question. Comment vous avez accueilli cette réunion du Conseil de sécurité sur l'embargo sur les armes en RDC?
C'est une réunion qui devait avoir lieu puisque l'embargo s'achève, dans quelques jours. Donc, logiquement, le Conseil de sécurité devait se réunir pour discuter de l'éventuelle reconduction de cet embargo. Donc c'est une réunion qui est programmée, je crois, de longue date.
De longue date, donc c'est une réunion ordinaire comme tout autre.
Ordinaire, oui. Enfin, disons que l'embargo s'achève. Maintenant, il sera logiquement reconduit. Il faut voir exactement les modalités qui entoureront cet embargo.
Alors, quel est l'état des lieux que vous faites, Georges Bergezan, de l'embargo sur les armes en RDC?
Oui, donc... L'embargo a été promulgué sous cette forme, en mars 2008. Donc, il ne vise que les personnes et entités non gouvernementales menant des activités sur les territoires de la RDC. Donc, si l'on veut, les groupes armés, qu'ils soient congolais ou non congolais, du moment qu'ils sont présents sur le territoire congolais. Voilà. Contrairement aux embargos précédents, il ne vise plus les transferts du gouvernement de la RDC.
Mais est-ce que concrètement cet embargo a été respecté, oui ou non?
Il semble bien que non. D'après le rapport du groupe d'experts, il y a notamment la Tanzanie qui est pointée du doigt dans l'approvisionnement des SDLR. Et selon les différentes informations qui circulent, des armes continuent à provenir de différents pays, pas seulement la Tanzanie, on parle d'à peu près tous les pays riverains de l'Est de la RDC, en particulier l'Ouganda et le Soudan, le Sud-Soudan.
Merci, Georges Bergezan. Vous êtes encore avec nous également tout au long de cette émission. Arthur Kepel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes analyste à l'ONG International Crisis Group. J'ai posé la même question à vos deux précédents interlocuteurs. Comment vous avez reçu la réunion du Conseil de sécurité?
Nous pensons qu'il y a encore beaucoup d'inquiétudes par rapport à la situation de l'embargo des armes. Non seulement sur les armes en état, je veux dire le réseau d'approvisionnement de certains groupes armés à partir des FARDC ou à partir de l'intérieur du Congo, mais également l'approvisionnement en armes à partir des pays voisins et d'autres pays lointains dans certains cas. Donc, nous pensons qu'il est absolument important, si l'on veut vraiment consolider la paix, si on veut pacifier surtout l'Est du Congo et aujourd'hui le haut et le bas où il est, qu'il soit absolument important de pouvoir veiller à ce que l'embargo sur les armes soit respecté, mais cela à partir du Congo d'abord, ensuite... Les pays voisins.
Donc, si je vous comprends, cet embargo n'a nullement été respecté.
Non, je ne dirais pas ça. Je pense que bon, il faut aussi apporter une précision. Je pense que il y a eu une mauvaise interprétation de l'embargo, parce que on a entendu il y a pas longtemps les autorités congolaises au plus haut niveau dire que voilà à cause de l'embargo nous ne savons pas approvisionner les FARDC, on nous demande d'aller dans des opérations militaires contre les FDLR, embargo. Je pense que le Conseil de sécurité dans sa dernière résolution avait plutôt recommandé que la RDC informe le Conseil de sécurité à chaque fois que elle va avoir à importer des armes, mais pour les unités FARDC intégrées seulement, et que l'exportation et la distribution d'armes pour des unités non intégrées est considérée comme effectivement une violation de l'embargo.
Merci Arthur Capel. Obin Minaku, quel est votre état des lieux de l'embargo sur les armes en RDC?
Bon, j'aimerais d'abord préciser que si tout le monde semble hésiter en faisant un constat par rapport à l'état des lieux, c'est tout simplement parce que les contours de cet embargo me paraissent assez flous. Il faudrait qu'on les éclaire. Un embargo contre les troupes rebelles, les troupes illicites, c'est tout à fait normal. Ça peut être considéré comme un mode de soutien de la communauté internationale des Nations Unies à un État souverain dirigé par un gouvernement bénéficiant de l'effectivité du pouvoir et de la légitimité. Là, c'est tout à fait normal. Mais si cet embargo porte préjudice à l'État souverain, à son gouvernement, à son armée, je crois qu'il faut bien éclairer cette situation. Je crois personnellement des concepts tels que informer le Conseil de sécurité des Nations Unies chaque fois qu'il est question d'importer les armes seulement en faveur des troupes intégrées, cela réduit la capacité souveraine de la République démocratique du Congo à s'organiser pour s'autodéterminer, notamment sur le plan militaire et politique. Je crois qu'après les élections organisées en 2006, aujourd'hui, il est bon que les Nations Unies, la communauté internationale, puissent de façon claire aider la République démocratique du Congo à disposer, et ils le font déjà, tant bien que mal, à disposer d'une armée souveraine pour rétablir réellement sa souveraineté sur toute l'étendue du territoire. Voilà le problème. Donc, à mon avis, l'embargo contre ceux qui viennent la République démocratique du Congo, à savoir les forces négatives, c'est une bonne chose. Mais cela doit s'opérer de façon concertée avec le gouvernement légitime et effectif d'un État souverain.
À
la source, oui.
Alors, quel est votre état des lieux? Parce que vous n'avez pas répondu également à la question.
Oui, j'ai voulu démontrer que si l'on ne répond pas à cette question, c'est parce que en amont, ce dossier d'embargo contre l'importation des armes, notamment à l'égard des Moyens du Congo, a été défini de façon floue. Pour moi, l'embargo n'a pas été réellement respecté dans la mesure où le conflit au Congo est assorti de beaucoup d'éléments d'extranéité. Il y a beaucoup de forces étrangères au niveau limitrophe du Congo et même plus loin, même outre-Atlantique, qui ont un intérêt, qui sont en train de commanditer cette guerre par télécommande. Voilà, c'est cette complexité qui fait que l'embargo est difficilement respecté.
Georges Bergesan, vous venez de suivre Aubin Minaku. Les contours de l'embargo sont flous. Cet embargo n'a pas réellement été respecté. Cet embargo n'a pas permis au gouvernement congolais de s'organiser. Qu'est-ce que vous en dites?
Moi, je voudrais préciser que depuis le 31 mars 2008, le gouvernement de RDC est libre d'importer toutes les armes qu'il a le moyen de payer. Que la notification préalable au Conseil de sécurité des achats d'armement du gouvernement congolais a été abolie.
et que la seule clause qui subsiste, c'est que les États exportateurs doivent notifier au Comité des sanctions des Nations Unies tout envoi d'armes ou de matériel connexe, comme ils disent, en RDC. Donc, il n'y a pas de limitation au niveau des achats possibles du gouvernement de la RDC, donc des forces armées de RDC. C'est cette distinction entre troupes intégrées ou non intégrées n'existe plus au niveau du Conseil de sécurité. Mais le vrai problème, donc, ce n'est pas l'armement de terroristes RDC, qui en a, à mon avis, suffisamment pour combattre les rébellions qui ont lieu dans l'Est et dans d'autres régions de la République. Mais le vrai problème, c'est la mise en œuvre de l'embargo qui vise les groupes armés. Cet embargo est fréquemment violé, que ce soit de l'extérieur par des envois d'armes de pays limitrophes, ou bien de l'intérieur, où les groupes rebelles continuent à acheter des armes à d'autres groupes rebelles, ou même aux FARDC. C'est un peu ça le problème.
Georges Bergezan, il y a cet auditeur junior Kabengele de Mbujimayi au Kasaï oriental qui demande pourquoi certains pays voisins ne respectent-ils pas le principe de l'embargo sur les armes en alimentant certains groupes armés nationaux et étrangers, brièvement.
À mon avis, le principal intérêt de ces gouvernements ou de citoyens ou de groupements dans ces pays voisins, c'est le commerce, l'argent, à mon avis. Je ne sais pas si, comme il y a quelques années, des gouvernements voisins continuaient à avoir intérêt à déstabiliser la RDC en inondant d'armes l'Est du pays. À mon avis, c'est essentiellement des intérêts pécuniaires. Plus les solidarités ethniques, par exemple au niveau des FDLR ou des Hutus de la diaspora, continuent à directement ou indirectement à soutenir les FDLR qui se battent en RDC.
Arthur Capel, deux auditeurs de l'Est du pays, Francis Vissot de Goma en Nord Kivu, dit « Je suis indigné par le fait que cet embargo ne soit que théorique car la pratique reste une utopie. Sur le terrain, c'est autre chose finalement. Dieudonné Kiza de Bounia en province orientale, peut-on vraiment croire à cet embargo car les armes n'ont jamais cessé de retentir en RDC ?
Oui, mais je pense que les auditeurs ont raison de s'inquiéter, surtout eux qui sont à l'Est où on assiste pratiquement au quotidien à des passages d'armes dans tous les sens. Je pense qu'ici, il s'agit justement de déplorer de l'absence de l'autorité de l'État, on ne dira jamais assez, le contrôle du flot d'armes, de munitions et de tout le matériel annexe. Je pense que c'est que si on a un État fort, si on a des frontières qui sont surveillées, si on a des services de sécurité qui fonctionnent, et si on a des militaires de l'armée nationale conscients que alimenter ou vendre de l'armement aux forces négatives, comme ça venait d'être dit tout à l'heure, est quelque chose qui viole non seulement l'embargo, mais aussi qui ne contribue pas à la consolidation de la paix dans la région. Donc je pense ici que les autorités congolaises devraient bien prendre conscience qu'il leur revient, de pouvoir mettre en place un dispositif effectif et efficace pour pouvoir contrôler le trafic d'armes. Tous les autres pays le font et ils ont cette responsabilité de le faire avant de commencer à blâmer les autres.
Effectivement, Arthur Capel, ce dispositif, nous allons en parler dans la deuxième partie de cette émission. Mais il y a un autre auditeur, Robert Kabandani de Bukavu, Sud Kivu, qui demande pourquoi est-ce qu'il est facile aux Nations Unies d'imposer les embargos au lieu de procéder tout simplement à la fermeture de toutes les usines qui fabriquent les armes en Europe et aux États-Unis.
Alors, vous savez, les usines qui fabriquent les armes de manière légale, sont enregistrés et exercent leurs activités dans le pays d'implantation où ils se trouvent, sont dans une activité qui n'est pas illégale. L'illégalité commence à partir du moment où on est dans un trafic illicite d'armes avec des groupes armés et qu'on n'est pas dans une exportation assez transparente avec des États. Donc, fermer comme ça toutes les fabriques d'armes ne serait pas la solution, mais ce qu'il faudra plutôt dire ici, et ce que je déplore personnellement, c'est justement le régime de sanctions du Conseil de sécurité. Lorsqu'on cite des gens dans le groupe, dans le rapport, le groupe d'experts, et que ces gens sont sujets à des sanctions, mais malheureusement, les Nations Unies n'ont pas la force de pouvoir, et là, ce sont des limites légales, n'ont pas la force de suivre l'implémentation de ces sanctions qui sont prises. Alors, quelle est l'efficacité entre mettre le nom de quelqu'un sur un rapport du groupe d'experts et le fait que cette même personne continue ses activités au quotidien sur le terrain? Donc, je pense que sur le terrain, les Nations Unies, le Conseil de sécurité ne peuvent que compter sur la collaboration des gouvernements concernés. Et malheureusement, à part cette collaboration, ben, le seul instrument que les Nations Unies vont avoir entre les mains, c'est des sanctions, mais des sanctions qui finalement ne quittent personne parce que ils n'ont pas la force de les faire appliquer de manière coercitive.
Merci. Robin Minaku, il y a Pika Dosité de Paris en France qui dit: pourquoi nos autorités ont-elles vendu des armes au FDLR? Et Bouffon de Mbungavinywa au Nord Kivu, l'entrée des armes en RDC est difficile à contrôler car ceux qui se chargent de la sécurité sont les premiers à fournir les armes aux rebelles.
Bon, je dirais sans embâche que c'est des affirmations gratuites. L'inapplicabilité de l'embargo, le non-respect de l'embargo est dû essentiellement aux causes exogènes. Vous savez, Kinshasa, c'est à plus ou moins 2000 km de l'Est, Kinshasa, la capitale du Congo. Ces armes viennent de certains États de l'Est, non loin de Goma, de Bukavu, de tous les coins et recoins où se retrouvent les Interahamwe. Et si nous arrivons aujourd'hui à comprendre que beaucoup d'armes viennent de l'extérieur, c'est tout simplement parce qu'il y a eu une certaine duplicité dès le départ. C'est parce que les intérêts sur le territoire congolais sont d'ordre économique et sont impliqués non seulement des responsables au niveau des États, certains États voisins, mais aussi plus loin et même en Europe. Si les FARDC vendent des armes aux Interahamwe, ce n'est pas de façon structurelle. Il existe des militaires FARDC qui peuvent vendre des armes à gauche à droite, mais sur le plan structurel par rapport à la chaîne de commandement, l'armée congolaise ne peut pas du tout, ne peut en aucun cas vendre des armes aux Interahamwe. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec cette affirmation. L'essentiel, c'est de comprendre que le conflit à l'est de la République démocratique du Congo est un conflit généré notamment par le fait de l'agir de la communauté internationale. L'essentiel, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, il est vrai que la République démocratique du Congo est en train de se refonder, n'a pas encore suffisamment de capacité dissuasive militaire pour contrer toutes ces forces négatives. Et que la République démocratique du Congo, en tant que membre à part entière des Nations Unies, ayant aidé à la résolution du conflit rwandais, le génocide de 1994, est en droit de bénéficier de l'appui de la communauté internationale. Voilà ce que je peux dire. L'armée congolaise ne vend pas de façon structurelle des armes aux intéressés.
Mais donc, si je vous comprends, Ben Inaku, pour vous, l'embargo est injustement imposé à la RDC.
Non, l'embargo, au départ, je dis que c'est depuis 93 déjà que l'on évoquait cette question d'embargo. L'Union européenne, si j'ai bonne souvenance, et je crois que je ne me trompe pas, et même les États-Unis, dans un autre contexte, le fait que le gouvernement congolais, à un certain moment, n'avait plus le pouvoir, la possibilité d'acheter des armes, a sérieusement préjudicié la RDC, dans la mesure où, depuis 1998, il s'agit réellement d'une agression armée dont a été victime le Congo. Et la Cour internationale de justice a déjà tranché à cet effet. Mais aujourd'hui, j'en conviens, depuis 2008, il y a eu une certaine nuance apportée dans les modalités de cet embargo, de sorte que ça concerne les forces négatives, notamment les intéressés. Et là, je suis tout à fait d'accord qu'il y ait embargo contre ces forces négatives, qu'on les affaiblisse, qu'ils soient mis hors d'état de nuire. Mais pourquoi nous ne réussissons pas? C'est parce que les éléments d'extranéité sont essentiels dans ce conflit, notamment politiques. Aussi longtemps que le processus de réconciliation nationale n'est pas résolu au sein des États, certains États voisins, aussi longtemps que les richesses du Congo intéressent notamment certains milieux d'affaires des grandes puissances, il sera difficile de jouer un jeu franc à l'est de la République démocratique du Congo.
Merci.
Voilà, selon moi, le pourquoi de la difficulté de mise en œuvre de l'embargo en question.
Georges Bergezan, il y a un autre auditeur, Robert Kabandani de Bukavu Sud-Kivu, qui demande comment est-ce que les Nations Unies procèdent quand ils décrètent un embargo. Est-ce qu'ils disent, par exemple, aux fabricants de vendre à tel client et non pas à tel autre?
Ils interdisent aux États et à leurs ressortissants de vendre à tel pays, par exemple. Comment ça se passe? Mais bon, ça ne concerne pas directement la RDC. Je ne vois pas très bien le sens de la question.
Bon, je crois que l'émission a aussi un côté pédagogique. Peut-être qu'il voudrait comprendre le mécanisme d'application par rapport aux usines qui vendent les armes. Y a-t-il les Nations Unies peuvent-elles dicter
Les États sont souverains et les Nations Unies n'ont pas le droit d'interdire à une usine dans tel pays de produire des armes. Donc elle peut prendre des pays qui violeraient manifestement à répétition l'embargo pourraient éventuellement subir même des sanctions de la part des Nations Unies, mais c'est il y a toujours d'abord la souveraineté des États.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni ce mercredi pour évoquer l'embargo sur les armes à destination de la RDC. Quel est l'état des lieux de l'embargo sur les armes en RDC et quel est l'impact de cet embargo sur la situation sécuritaire à l'est du pays? C'est le thème de Dialogue entre Congolais de ce soir. Nos invités sont Aubin Minaku, député national de la majorité présidentielle et vice-président du groupe parlementaire PPRD à l'Assemblée nationale, Arthur Keppel, analyste à l'ONG International Crisis Group, Georges Bergezan, chargé de recherche à l'ONG GRIP, groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité. Vous souhaitez participer à cette émission, voici le rappel de nos contacts.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 890 66 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
Quel est l'impact de cet embargo sur la situation sécuritaire à l'est du pays? Cet embargo pouvait en avoir un impact positif sur la sécurité à l'est du pays si les causes et les facteurs qui favorisent chaque jour la circulation des armes étaient pratiquement combattus. Ces propos sont du docteur Simon Bokongo, représentant de la Fédération mondiale des médecins pour la prévention de la guerre nucléaire. Il pense que les résultats sur terrain est mitigé. On écoute docteur Simon Bokongo au téléphone de Guy Maté.
On devrait aboutir à des résultats palpables. Malheureusement, le résultat est mitigé. Il est mitigé pourquoi? Parce que ce soit la République démocratique du Congo qui était sous embargo, que ce soit les pays voisins qui pouvaient acheter des armes, il y a eu des circulations intenses d'armes entre les différentes frontières de l'Est et contre la République démocratique du Congo. Deuxièmement, la République démocratique du Congo, tout en étant sous embargo, fournissait des armes aux groupes rebelles étrangers. Et là, je citerai les FDLR. Donc, cet embargo n'a pas donné l'effet escompté, c'est-à-dire sécuriser le pays, réduire les atrocités, réduire les violations des droits humains, réduire la souffrance des blessés, ainsi de suite.
Voilà, donc là nous parlons de l'impact de cet embargo sur la situation sécuritaire à l'est du pays. Il y a un auditeur, Robert Bahomé de Bukavu, au sud Kivu, qui dit « À y regarder de près, l'impact de cet embargo sur la RDC est nul, car la période de sous-embargo est pire que celle de l'embargo. Plus il y a l'embargo, plus il y a circulation massive et incontrôlée d'armes à feu conduisant à l'insécurité. » Georges Bergemans, peut-on dire que cet embargo n'a finalement eu aucun impact sur la situation sécuritaire à l'Est?
C'est difficile à évaluer. Disons que, à mon avis, la situation sera encore pire s'il n'y avait pas eu d'embargo. Donc, ça ne veut pas dire loin de là que l'embargo apporte des éléments décisifs, mais bon, ça pourrait être pire s'il n'y avait pas d'embargo. Mais je voudrais surtout insister sur le fait qu'actuellement, la RDC, l'Est en particulier, est saturée d'armes. Les armes sont déjà là, il n'y a plus besoin de les importer. Il y en a assez partout. Les groupes armés qui se forment ou se reforment n'ont pas besoin de franchir des frontières pour s'approvisionner. Il existe des caches d'armes partout, il suffit d'en acheter à des démobilisés, etc. Les armes sont là. Le problème, c'est plus au niveau des motivations, des porteurs d'armes, des détenteurs d'armes. Pourquoi gardent-ils leurs armes, etc. Donc là, on dépasse un peu le thème du débat, mais surtout, il faut surtout se rendre compte que les armes sont déjà à l'intérieur du Congo, qu'il continue à y avoir des achats à l'extérieur, mais que ce n'est plus l'essentiel du trafic d'armes qui se passe à l'intérieur du Congo pour l'instant, je pense.
Il y a un autre auditeur, Georges Bergazan, Carlo Ngili de Nyakunde en Ituri, qui dit « L'embargo des armes en RDC aura un impact positif du point de vue sécuritaire si et seulement si nos frontières sont bien sécurisées. »
Oui, c'est un point essentiel. Effectivement, les frontières continuent à être mal surveillées. Évidemment, les frontières sont immenses. Il n'y a pas assez d'hommes affectés au contrôle des frontières, et surtout, il n'y a pas les moyens techniques de surveillance adéquats. C'est un gros problème. Effectivement, en général, c'est aussi le problème de l'État congolais qui n'est pas assez fort, qui ne contrôle pas ni ses frontières, ni ses forces armées, ni ses forces de sécurité, etc. C'est un peu le problème de base qui est.
Arthur Kepel, il y a Jean-Yves Alimassi de Baraka au sud de Kivu qui dit « Embargo ou pas, des armes dans notre pays, c'est nul car nous qui sommes à Fizi, nous subissons les affres de ces désordres de trafic d'armes. »
Oui, mais je l'ai dit il n'y a pas longtemps dans cette émission. Je pense que lorsqu'on est à un endroit comme Bounia, avec entre 20 et 35 dollars, on peut se procurer une Kalachnikov. Lorsqu'on est à Goma avec 50 dollars, on peut s'acheter une Kalachnikov. Lorsqu'on est à Fiji, à Baraka, ou même à Uvira, on peut facilement s'acheter une Kalachnikov et des munitions. Donc, il est vrai que, comme disait l'intervenant tout à l'heure, et même lorsqu'on voit les différentes résolutions du Conseil de sécurité, on responsabilise les États. On responsabilise les États dans la mesure où les États sont au premier chef les responsables de la sécurité de leur territoire et de la protection de leurs citoyens. Donc, le Conseil de sécurité envoie des équipes d'experts pour bien faire une évaluation mener des enquêtes pour rechercher des éventuelles violations de l'embargo, mais il faut le dire, tant que l'État congolais, tant que les autorités congolaises ne vont pas avoir cette capacité ou cette volonté politique forte de pouvoir prendre comme priorité la protection, la surveillance du territoire congolais, malheureusement, les armes vont continuer à circuler et à commettre des dégâts, et celui qui continuera à payer le prix fort, c'est la population civile.
Robin Minaku, il y a Mandro Ouzélé de Bounia en province orientale qui dit « L'embargo sur les armes en RDC n'était que de nom. Sur le plan pratique, il n'a jamais existé d'embargo en RDC. Les armes et les munitions entrent au vu et au su de tout le monde. Sur la situation sécuritaire à l'est du pays, cet embargo n'a pas d'impact positif, d'autant plus qu'il n'a pas été respecté. L'on dirait que c'est cet embargo qui est à la base de l'insécurité à l'est de la RDC. »
Oui, je donnerai comme réponse que l'embargo n'est qu'un instrument parmi tant d'autres qui doivent se conjuguer ensemble pour amener la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Il est vrai que la responsabilité première pour amener la paix, pour assurer la sécurité aux populations congolaises, pour protéger nos frontières, cette responsabilité, disais-je, revient à l'État congolais. C'est vrai. Mais l'on doit aussi convenir que l'État congolais a le droit, dans la situation actuelle, de bénéficier d'un soutien réel, sincère et efficace de la communauté internationale, des Nations Unies et des différents partenaires bilatéraux. Parce que nous devons tous reconnaître que la situation vécue aujourd'hui par la RDC a comme origine notamment et essentiellement le flux massif des réfugiés rwandais, plus d'un million, certains disent même deux millions, vers le Congo. Et c'est à partir de ce moment qu'on a commencé à parler des Interahamwe. C'est à partir de ce moment que, notamment, le Rwanda a eu le prétexte de faire la guerre au Congo pour contrer les Interahamwe. Aujourd'hui, ensemble avec le Rwanda, nous avons réglé ce problème. Je crois que nous devons appuyer une mise en œuvre efficiente de l'embargo, c'est normal, mais ce n'est pas le seul instrument. Voilà. Le meilleur instrument, à mon avis, c'est le renforcement réel de l'armée congolaise, qu'elle obtient une capacité dissuasive sans conteste. Et à ce propos, nous sommes en pleine refondation, notamment l'armée congolaise. Sur le plan législatif, il y a une loi qui venait d'être adoptée à l'Assemblée nationale en rapport avec les forces armées de la République démocratique du Congo. Donc c'est un processus. L'armée était en pleine refondation, mais elle s'est retrouvée dans une guerre complexe, une guerre d'agression, depuis 1998. Aucun pays au monde ne peut mettre une armée efficace en pleine guerre, alors que l'armée était en refondation. Merci. Donc ce n'est pas une honte pour nous de bénéficier de l'appui étranger. Merci. Mais je reconnais que c'est une tâche première de l'État congolais. Nous devons mieux organiser l'embargo, mais l'organisation de l'embargo doit tenir compte des causes réelles qui font qu'il y ait persistance de la guerre au Congo.
Merci,
ce sont des causes notamment d'ordre économique.
Merci, Robin Minaku. Je retiens donc que pour vous, cet embargo n'a pas eu d'impact positif sur la situation sécuritaire à l'est du pays. Arthur Kepel, quels sont les dispositifs à mettre en place pour finalement réduire le trafic d'armes? Parce que vous en aviez déjà parlé, les dispositifs.
Oui, mais je pense que il n'y a pas de solution. Il faut que l'État congolais mette en place un dispositif de surveillance qui puisse avoir un regard assez efficace sur la circulation des armes. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, il faudra aussi pour décourager l'approvisionnement d'armes en interne, comme je l'avais décrit, il faudra regarder le social du soldat congolais, parce que pourquoi, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi le soldat FARDC est prêt à vendre une arme ou à vendre des munitions à un groupe armé étranger ou congolais. Justement parce qu'il a un problème de social, donc il faut regarder le social de l'armée et mettre des gens dans des conditions viables pour qu'ils ne soient pas tentés de se lancer dans ce genre de trafic qui sont finalement dangereux pour le travail qu'ils font et qui n'aident pas justement la sécurisation du territoire congolais. Alors, troisièmement, je crois qu'il faut absolument que nous sortions justement de cette culture de dépendance, d'accuser la communauté internationale, qui elle-même est assez divisée, et je pense que les causes de l'insécurité à l'Est, nous devons les trouver sur place, et c'est aux Congolais de s'approprier justement la recherche de solutions et de solutions durables pour les conflits à l'Est.
Georges Bergesson, pour vous, quels sont les dispositifs à mettre en place? Nous avons par exemple vu ici au pays le passeur Ngoï Mulunda qui a entrepris des opérations telles que armes contre 100 dollars, armes contre toll, armes contre vélo. Qu'est-ce que vous en dites? Quels dispositifs faut-il mettre en place brièvement, et ce sera votre conclusion aussi?
Oui, donc d'une part, il y a la réforme des FARDC qui doit se poursuivre, payer les soldats, les rotations des officiers, des civils, etc. Et puis d'autre part, il faut continuer désarmer les groupes armés, les intégrer si nécessaire dans les FARDC ou si possible dans la vie civile. Et puis, il restera le problème des civils qui sont eux-mêmes armés, souvent armés. Donc c'est là que des initiatives comme celle du PAREC, à Kinshasa et à Lubumbashi, etc., sont intéressantes. Mais il faut que ces initiatives soient en prise avec la société locale. Bon, par exemple, armes contre 100 dollars, on récompense le détenteur d'armes, qui est parfois lui-même un criminel. Certaines expériences en Ituri, visait plutôt à offrir une compensation à la communauté dans son ensemble. On ramasse un lot d'armes et on fournit, on finance un projet de développement. On a des projets comme ça qui devraient se mettre en place petit à petit dans tout l'est de l'RDC, qui comme je l'ai dit, est saturé d'armes, pas seulement les FARDC, les groupes armés, mais également les civils. Voilà, donc en deux mots comme ça. Des initiatives comme celle du PAREC sont positives, mais doivent être adaptées aux situations locales.
Merci, Georges Bergesson. Aubin Minaku, votre conclusion aussi, et en plus, cet auditeur Kai Azuro de Kalemi au Katanga qui dit quand le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni à ce sujet, cela n'est pas bon signe pour la RDC.
Dans le Conseil de sécurité, c'est un organe chargé du maintien de la paix et la sécurité internationale. Cela est toujours bon pour la RDC, à nous de savoir assurer un monitoring pour suivre l'évolution des travaux au sein du Conseil de sécurité. En guise de conclusion, je dirais que l'État congolais doit savoir se prendre en charge. Le peuple congolais doit savoir se prendre en charge à travers des mécanismes particuliers, bien réfléchis. C'est pourquoi j'appuie la démarche du pasteur Mulunda, armes contre 100 dollars, dans la mesure où cela nous a permis, notamment à Kinshasa, de nous débarrasser de plusieurs milliers d'armes. Merci. Si nous ne l'avions pas fait, qui ne l'avait pas fait, aucun autre ne l'aurait fait pour le Congo. Mais le Congo mérite notre soutien des Nations Unies. Cela ne signifie pas demander.
Merci à Aubin Minaku, député national de la majorité présidentielle et vice-président du groupe parlementaire PPRD à l'Assemblée nationale. Merci à Arthur Keppel, analyste à l'ONG International Crisis Group. À Georges Bergesson, chargé de recherche à l'ONG GRIP, groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été très nombreux à nous suivre. Bonne soirée et à demain.